Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9 et pour cette édition, eh bien, nous recevons le comédien, acteur, conteur, clown, musicien Michel Jaya. Michel Jaya, bonjour.
Bonjour.
Michel Jaya, vous venez donc, vous faites partie, enfin vous avez une compagnie de théâtre qui s'intitule Théâtre, enfin dont le nom est Théâtre, le Théâtre du Chemin de Ronde qui se base à Fougères, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Donc le Théâtre du Chemin de Ronde, et vous faites régulièrement voilà, des spectacles, lectures avec le musicien Laurent Gentil, où vous pouvez lire différents textes de poésie, des lectures musicales et poétiques, des lectures musicales et poétiques évidemment, oui. Donc avec le musicien Laurent Gentil, des spectacles qui peuvent tourner, alors bon, voilà, le contexte est un peu particulier depuis une année, mais des spectacles qu'on peut retrouver où?
Alors, effectivement, pour l'instant, bon, on ne tourne pas beaucoup, hein, vu les conditions actuelles. Mais sinon, la plupart du temps, bon, bah, les spectacles poétiques, on les trouve au Printemps des Poètes, par exemple, dans la manifestation nationale du Printemps des Poètes. On a joué une dizaine de fois dans cette manifestation-là. Et puis sinon, dans des médiathèques, très souvent, la lecture poétique est un genre de spectacle qui correspond très bien à la jauge d'une médiathèque. Parce que dans une lecture poétique, il ne faut pas forcément être 500 spectateurs. Hein. Il faut créer une certaine intimité, créer une certaine communication avec le public. Et très souvent, les médiathèques ont un espace qui permet ça. Donc voilà, on joue souvent dans les médiathèques et puis aussi, bien sûr, dans les centres culturels quand on nous demande, à l'occasion de différentes manifestations. Très souvent, les lectures poétiques viennent en complément, par exemple, d'un spectacle ou d'un thème ou d'un festival qui est créé à un certain moment. Et la lecture poétique, c'est quelque chose qui donne un autre éclairage sur le thème dont on parle.
Voilà. Des lectures poétiques, donc vous le dites, qui ont lieu notamment pendant le Printemps des Poètes. Alors, je devais vous recevoir un peu plus tôt dans la saison, c'est-à-dire en mars, à ce moment du Printemps des Poètes, ce moment officiel, on va dire, mais et pour présenter aussi un moment qui devait avoir lieu à Bazouges-la-Pérouse, organisé par la compagnie des Trois Valoches, qui est donc un moment qui se rassemblera autour de la poésie dans le centre-ville de Bazouges-la-Pérouse. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que vous ferez aussi partie de... et vous présenterez justement les textes, des textes de poésie autour du désir, car c'était le thème du Printemps des Poètes. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce moment qui aura lieu donc non plus en mars, mais en juin?
Alors, ce moment-là aura lieu... vraisemblablement, si les conditions sont réunies, bien sûr, hein. Normalement le 26 juin et le 27, voilà. Donc, effectivement, alors cette manifestation est, comment dire, à l'origine de cette manifestation, il y a la compagnie des Trois Valoches et la municipalité de Bazouges-la-Pérouse, ainsi que la compagnie Les Échappés du Bal. Voilà. Et moi, on m'a demandé si ça m'intéressait de pouvoir m'associer à cette opération. Mais évidemment, j'ai dit oui, parce que j'adore dire des textes en public. Donc, je sais qu'il y aura pas mal de choses. Il y aura des ateliers d'écriture. Il y aura des déambulations aussi, justement, qui seront organisées par la compagnie des Échappés du Bal. Il y aura aussi une école de cirque qui se manifestera, je crois que ça s'appelle le Rire du Roseau, et puis la compagnie des Trois Valoches qui se produira aussi. Et pour moi personnellement, j'interviendrai avec une pianiste qui s'appelle Annabelle, Et ça sera un concert poétique, disons, avec une alternance entre des morceaux de musique et des textes poétiques que je proférerai donc devant un public. Tout cela sous la férule, si on peut dire, entre guillemets, de Pascal Boulanger, donc, qui est la personne qui va s'occuper un petit peu de choisir les textes, qui sont, comme vous l'avez indiqué, tous basés sur le thème du désir. Mmh. Voilà, cette année, c'est le thème du désir, qui est un grand thème poétique, s'il en est un, bien sûr.
Voilà. Alors, voilà, vous avez l'habitude hein, de dire, des en tant que comédien, de dire des poèmes dans vos lectures, spectacles. Là, ce sera sur le thème du désir, mais vous avez donc tout un spectacle qui consiste à lire des poèmes de différents auteurs, très éclectiques, hein, et voilà, ouais. En même temps jouer avec Laurent Gentil. Hein. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces lectures? Pourquoi lire de la poésie? C'est assez, c'est pas forcément en commun. Nous, on aime beaucoup ça à la radio. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce genre de spectacle?
Alors, ça part évidemment d'abord d'un goût personnel pour la poésie. Puis moi, bon, quand j'étais étudiant en théâtre, j'ai beaucoup travaillé sur, effectivement, pouvoir dire des textes en public. Et je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que la poésie, très souvent, la poésie, ça apparaît comme quelque chose qui est un petit peu réservé à une élite, un peu intellectuelle. Très souvent, on considère que la poésie, c'est pour des gens qui s'enferment dans un rapport un peu individuel, comme ça, avec leurs livres, et qui sont dans une espèce de concentration en rapport avec les mots et la sonorité de ce qui est dit dans le poème. Alors c'est vrai, bien sûr, mais moi je pense qu'aussi la poésie, on arrive vraiment à l'aimer lorsqu'on l'entend. Pour moi, la poésie, c'est pas uniquement une affaire intellectuelle, quoi. C'est une affaire sensible et une affaire de son, de musicalité, de matière sonore. Et puis aussi, ça a quelque chose à voir avec le partage. Hein, effectivement, quand on lit un poème tout seul dans sa chambre le soir, ben, on est seul avec son livre. Par contre, quand on dit un texte devant un public, ben, on est avec le public, donc, et on fait circuler de manière contagieuse, j'espère, un univers, une force, un souffle, des mots, de la musique. Et j'ai remarqué que les gens étaient en général intéressés lorsqu'ils entendent de la poésie. Même s'ils ne comprennent pas forcément tout, hein, parce que la poésie, ce n'est pas uniquement du sens intellectuel, ce n'est pas uniquement de la sémantique, c'est-à-dire des choses qu'on doit comprendre, puisque la poésie, très souvent, dissimule le sens des choses derrière d'autres mots. Hein. Mais la poésie, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi de la musique, quoi. La poésie, c'est de la musicalité, c'est de la matière sonore, c'est des mots, des rythmes, des couleurs, et je crois que les gens sont sensibles à ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Si on est sensible à ce que transporte comme matière sonore la poésie, ben forcément, le sens de ce qui est dit nous arrivera à un moment ou à un autre, ça c'est sûr, quoi. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a de la poésie qui est très intellectuelle aussi, qui est intéressante, hein. Je ne suis pas du tout contre la poésie intellectuelle. Mais moi, personnellement, j'aime bien, disons, la poésie lyrique. Voilà.
Alors, la poésie lyrique, est-ce que vous pourriez nous dresser un tableau, justement, des différents auteurs, écrivains que vous pouvez aller chercher pour voilà, et que vous appréciez et que vous lisez en public.
Alors évidemment, la palette est très large, hein, parce que j'ai dit beaucoup de textes de plein d'auteurs différents. Dans les auteurs lyriques que moi j'apprécie énormément, bah, évidemment, je pense à Baudelaire, quoi, qui est quand même pour moi un des plus grands. Et si vous le permettez, je pourrais vous dire un petit texte, quoi. Justement parce qu'actuellement, on célèbre le 200e anniversaire de sa naissance. Et j'ai un petit texte là, si vous voulez, je peux vous lire.
Allez-y. Alors, ce que je n'ai pas présenté dans l'émission, oui. C'est que vous alliez justement nous lire des poèmes pour, voilà, pour cette période du printemps aussi, parce que voilà. tout cela va ensemble, poésie et printemps. Enfin, voilà. Bon, c'est selon, ça peut aller en hiver aussi, en automne, bien bref. Sûr. Mais voilà, tout ça s'y prête. Et le beau temps aussi, et Baudelaire aussi.
Alors, un texte qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Le Spleen de Paris. Voilà. Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.
Merci. Voilà. Merci Michel Jaya pour ce poème de Baudelaire. Enivrez-vous. Vous pouvez nous le présenter un petit peu, ce poème ?
Le présenter, bon, bah, je crois que.
Enfin, peut-être.
En l'entendant,
on vient de l'entendre, oui.
On voit bien de quoi il s'agit. Bon, enfin, bon, bah, Baudelaire était un poète qui se contentait pas uniquement de ce qu'était le beau d'une manière classique, quoi. Hein. C'est-à-dire que. Bon, là, ce que j'aime bien dans ce texte-là, c'est qu'il parle de l'ivresse. Bon, que l'ivresse, c'est Dionysos, c'est évidemment toute la poésie, c'est le théâtre, c'est la fête, c'est tout ce qui fait que l'homme cherche en permanence, l'homme et la femme, bien sûr, cherchent en permanence à se sublimer, puis à atteindre des niveaux d'excitation, de sensibilité qui le font vibrer, quoi. Donc, c'est un poème qui correspond très bien au côté dionysiaque qui était un des côtés de Baudelaire. Et vous me demandiez ça, mais oui, Baudelaire était quelqu'un qui ne pensait pas que ce qui était bon était forcément lié à ce qui était beau. Hein, puisqu'il a écrit Les Fleurs du Mal. Hein, Les Fleurs du Mal, bon, s'il y a des poèmes dans lesquels, quand il parle d'une charogne, par exemple, qui décrit la beauté d'une charogne, hein, c'est pas... À l'époque, c'était quand même quelque chose qui avait beaucoup choqué.
Oui, ça avait choqué. Ce livre a été censuré, hein, me semble-t-il.
Oui. Y a eu une dizaine de poèmes qui ont été censurés. Hein. Des poèmes qui étaient plus des poèmes, disons, de nature un peu érotique, qui faisaient aussi un peu l'éloge de la sensualité, du lesbianisme aussi... Et à l'époque, évidemment, ça choquait beaucoup. Hein. Mais quand on le relit maintenant, ça paraît un peu désuet, évidemment, parce qu'on est à une autre époque. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et Baudelaire, bah, c'était ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était moderne par le fait que, bah, il était aussi dans... de ne pas forcément chercher dans le passé les raisons d'aimer le présent, mais de chercher aussi dans l'instantanéité des choses une façon de jouir du temps présent. Voilà. Bref, bon, c'est plus compliqué que ça, Baudelaire, bien sûr, mais enfin... Voilà.
En tant que comédien, le fait de se faire passeur aussi de texte, ouais. Comment dire, c'est une manière aussi d'interpréter la musicalité de chaque texte, des auteurs que vous pouvez rencontrer et proposer.
Bah oui, tout à fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, oui. C'est-à-dire que les mots ont une musicalité. Alors, il y a des poètes qui ne s'intéressent pas du tout à ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les poètes qui s'intéressent à ça. Je sais pas, certains poètes, comme par exemple Lorca, si vous prenez Federico Garcia Lorca, c'est extrêmement lyrique. Sa poésie, en même temps, elle est extrêmement forte, elle est puissante, parce qu'il y a des fois des oppositions de mots qui créent des sens un petit peu différents. Et oui, la musicalité, c'est ce que disait Verlaine, hein, de la musique avant toute chose. Il disait ça. Mais je pense que les mots portent en eux, pour celui qui écoute, un plaisir qui est lié à la sonorité, quoi. Et franchement, j'encourage les gens qui se disent « oui, oh, la poésie, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi », je les encourage à dire les textes à haute voix. Et vraiment, en détachant bien toutes les syllabes, par exemple, et ils s'apercevront que s'ils sont un peu à l'écoute de la manière dont ils disent les textes, qu'ils vont trouver du plaisir à dire certains mots, certaines syllabes. Il y a beaucoup de poètes qui choisissent les mots en fonction de la résonance sonore que les mots vont avoir. Alors, je trouve que ça, c'est un bon moyen de créer une communication entre celui qui dit le texte et celui qui le reçoit, quoi.
Voilà. Donc c'est un conseil, lire un poème à haute voix,
oui.
Par jour, par semaine.
Par exemple, oui. Oui, d'ailleurs, les Aèdes, au temps des Grecs anciens, disaient les poèmes à haute voix. Hein. Les Rhapsodes aussi, les poèmes étaient lus à haute voix. Et bon, il y a eu un moment donné où la poésie est devenue intellectuelle, parce que aussi la poésie est devenue quelque chose qu'on écrivait plus qu'on disait. Et maintenant, je trouve que c'est bien de retrouver le côté du plaisir de dire des textes à haute voix. Bon, la poésie, c'est pas de la chanson, hein, bien sûr. Hein. Mais comment dire, le plaisir qu'on peut trouver à dire un texte poétique, il est pas loin du plaisir qu'on trouve à chanter aussi. Ça veut pas dire qu'il faut chanter la poésie, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein, parce que c'est pas la même chose. Mais c'est un plaisir sonore, oui, un plaisir des vibrations sonores, quoi. Il faut sentir en soi les vibrations sonores. Et justement, alors, par exemple, dans le dernier Printemps des Poètes que j'ai fait dans le Coglet, là, j'avais proposé un stage d'initiation au fait de pouvoir jouer la poésie. Et on avait travaillé là-dessus, justement, sur la sonorité des mots. Et les gens avaient vraiment apprécié ça, quoi. C'est-à-dire que les mots, c'est pas que du sens, quoi. C'est de la musique aussi, quoi. Voilà.
Et de musique, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écouter un morceau de musique. Je vous coupe, là, j'ai l'impression. On va écouter un morceau que vous me proposiez, qui s'intitule « Everything Happens to Me » de Keith Jarrett et Charlie Haddon. Voilà,
d'accord.
On va écouter un petit peu de jazz. Thank you. êtes bien à l'écoute de Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com à l'instant. Donc, on a écouté un extrait de Keith Jarrett et Charlie Haden, Everything Happens to Me. Et donc, nous recevons Michel Jarya, qui est comédien, auteur. Comédien, acteur et conteur, et que nous recevons pour une lecture de textes, de poésie, de poèmes en musique, des lectures que l'on pourra retrouver notamment en juin à Bazouges-la-Pérouse le 26 juin prochain. Michel Jarya, voilà, on parlait tout à l'heure de votre amour de la poésie, du fait que vous appréciez énormément les dire en public notamment. Et là, eh bien, vous avez un texte à nous proposer de Zeno Bianu. On vient d'écouter un morceau de jazz. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Donc Zeno Bianu est un auteur qui a beaucoup écrit sur le blues et le jazz, justement, et la matière poétique, qui a créé un mouvement qui s'appelle la poésie électrique, et qui a, dans le poème que je vais dire là, vous allez voir, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est il a beaucoup travaillé sur la sonorité. Mmh. Voilà. Donc là, je vous lis un petit extrait de ce texte, hein, qui s'appelle « Autoportrait du feu ». Et c'est un texte qu'il a écrit sur un solo de Albert Ayler, donc un saxophoniste jazz bien connu. « Je souffle ce que la nuit me concède de son mystère. Je profère dans ma chambre d'écho planétaire. Je souffle dans la chambre des souffles. Je souffle inlassable, je souffle salamandre, je souffle en feu follet pour croire sans fin à la nouveauté du monde. Heavenly home. Je projette toutes mes forces dans chaque expiration. Spirits rejoice. Je clame et je claquette. Queen et carcaille et courcaille, je criaille et craquette, folle et colombe, meugle et margotte, piaule et pépille et piaille, beugle, braille, brame, cacabe, cacarde et canquette, je suinte et je chuinte, queen et ruine, glapi, glati, glotor, jabote et jacasse, jappe et jase et jazz, et ré et rauque, et coule et roucoule, et caracoule dans l'absolu roucoulis de tout, glousse et graille et gogne et grogne, et ulule, hôle et hurle, et râle noir comme le rat des cailles. Je suis un chat-huant, une huée de huettes qui stride et stridule, à bec que veux-tu, en saccade de sifflet, en murmure d'atomes ailés, au pays où les chiens tremblent, à grand a-a et ou à bras, au pays où les orfraies s'effraient, au pays où je tourne et gire et gicle, où j'affole et j'alalie, au pays du grand tumulte, au pays des saintes résonances, des émeutes lumineuses, où j'éjoue dans la source du souffle, à la source de l'âme, où cela résonne et déraisonne. Je souffle, et je sais que Dieu ne peut faire retour que dans le souffle. Etc., etc. Le poème dure encore un certain nombre de minutes.
Zeno Bianu, est-ce que vous pourriez nous le présenter?
Donc Zeno Bianu, c'est ce que je vous disais, donc c'est un auteur qui a écrit beaucoup, qui était très, bon, qui est connu, hein, qui est venu d'ailleurs dans le Coglen il y a 2 ans, je crois, et qui a écrit, qui était vraiment passionné de, qui est toujours, passionné de jazz et de blues, et donc il a écrit des textes en essayant de trouver justement un petit peu la sonorité et le rythme, hein, parce que dans la poésie contemporaine il y a ça aussi, c'est-à-dire, oui, qu'il y a la sonorité et le rythme, quoi. Mm-hmm. Hein.
Alors là, on l'entend, on entend
ouais.
Bien le jeu avec les mots, avec les sonorités, justement.
Voilà, exactement, oui. Oui, oui. Oui, oui, alors après, bon, ben, bon, certains disent que quand les mots ont été créés, ils ont été créés aussi en fonction de la sensation que l'objet faisait naître en nous. Hein. Par exemple, si je dis le mot « miel », hein, c'est forcément quelque chose de doux. Et si je dis le mot « vinaigre », c'est forcément quelque chose qui a tendance plus à être un peu... qui rappe un peu, quoi, voilà. Et donc, une partie de la poésie contemporaine est basée là-dessus aussi, sur ce qu'on appelle le cratilisme, pour parler de manière savante.
Le cratilisme.
Le cratilisme, oui. C'est-à-dire que entre comment dire, le nom de quelque chose et la chose en elle-même, il y a un rapport entre la matière de la chose et la manière dont on la nomme, cette chose.
D'accord.
D'autres linguistes ne sont pas d'accord avec ça, mais enfin bref, ça c'est des... c'est pas grave.
Est-ce que vous auriez, par exemple, un autre poème à nous présenter ou à nous proposer, à nous lire?
Oui, oui, alors j'en ai d'autres. Alors bon, je pensais par exemple... j'avais pensé à Boris Vian.
Ah.
Bon, évidemment, c'est pas la même chose.
Hein. Très, très. Un amoureux du jazz aussi.
Un amoureux du jazz. Et bon, bah là, il a écrit un texte. Ça s'appelle Je voudrais pas crever. Je pense que c'est un texte qui est assez connu. Donc, je peux vous le lire si vous voulez.
Oui, voilà. Avec plaisir.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à cul nus. Dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, si le soleil est froid. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si ici je savais que j'en aurais l'étrenne. Ah, il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé. L'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec mes bouches, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. Bah, j'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers jovieux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Ah, tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Ah, je ne voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente. Le goût qui est le plus fort, je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Voilà.
Boris Vian, Voilà, un texte de Boris Vian, très connu, qui était un amoureux du jazz et quelqu'un qui était un très grand vivant, pour le coup.
Ah oui, c'est sûr. Il a écrit aussi un autre, si vous avez le temps,
oui,
je peux vous en
sûr.
Dire un autre qui Allez-y. Est un petit différent. C'est sur... Bon, bah lui, Boris Vian, par rapport au jazz, c'était un peu l'époque du bebop. Mm-hmm. Hein, voilà. Savez-vous ce qu'il faudra écouter sans arrêter toute l'année ? C'est le bebop. Et il faudra laisser tomber les chanteurs pleins de douceur et de candeur pour le bebop. Je vous dis que ce sera bien porté de fredonner, de chantonner comme un bebop. Cherchez tout de suite avec ardeur un professeur un peu à la hauteur pour le bebop. Je vais vous aider pour les premières leçons, je vais vous guider avec la plus grande attention. Toutes les branches de l'activité seront visées, c'est sûr et c'est réglé par le bebop. On doit s'habiller ou se promener, manger, danser et même s'aimer à la bebop. D'abord, il vous faut un béret grenat, des souliers plats et des cols bas pour être bebop. Et puis, vous laissez pousser la barbiche. Mais on s'en fiche qu'elle soit postiche, on est bebop. Vous devrez porter des bretelles de soie, couleur lilas ou chocolat, ça fait bebop. Et pour vous, madame, c'est plus riche, un petit caniche royal avec sa niche, c'est très bebop. Nous irons danser à Saint-Germain-des-Prés où les amoureux font tous du bebop deux par deux. On s'embrasse tous du soir au matin comme du bon pain à pleine main chez les bebop. Vraiment, pour être toujours plein d'entrain, venez, n'attendez pas demain, soyez bebop.
Un texte de voilà. Boris Vian. On va faire juste une petite pause musicale avec Nina Simon, I Don't Know, I Get Life. Désolé pour l'accent.
No school.
Nina Simon dans Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 avec le morceau I'm Gonna, I Got Life. Et nous recevons donc Michel Jaya pour cette dernière partie d'émission de Logosphère consacrée justement à la poésie et la musique, les lectures musicales, et notamment que vous pouvez faire dans différents lieux habituellement. Michel Jaya, vous nous avez lu déjà quelques textes, le dernier était de Boris Vian. C'est bien ça, je me trompe pas.
Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement.
Et vous aviez quelques autres textes à nous proposer, à nous faire entendre et à partager aux auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce texte que vous avez sous les yeux ?
Alors là, le texte, c'est un texte que vous connaissez certainement, de Claude Nougaro. Donc lui, évidemment, il l'a mis en chanson, mais moi, j'ai envie de vous le dire... comme un texte poétique, parce que c'est un texte poétique. Ça s'appelle « Le rouge et le noir ». Mmh. Voilà. Donc c'est un peu ambiance film policier, quoi. Mmh. Un peu cette ambiance-là, je crois. L'enseigne au néon, à l'entrée du bouge, éclaire la chambre noire d'une lueur rouge. Quand descend le soir. Et dans cette chambre rouge, il y a un grand type noir avec une fille rouge en robe de soie noire. L'enseigne au néon, à l'entrée du bouge, éclaire la chambre noire d'une lueur rouge, couleur d'abattoir. Et dans cette chambre rouge, il y a le grand type noir qui boit du gin rouge comme un anteau noir, tandis que la fille rouge se remet du rouge noir. L'enseigne au néon, à l'entrée du bouge, éclaire le type noir qui se met à rire rouge et se resserre à boire, tandis que la fille bouge ses hanches de soie noire au rythme d'un blues qui sort du bouge noir. L'enseigne au néon, à l'entrée du bouge, bat comme un cœur noir. Le type se fait tendre, rouge. La fille dit non, noir. Qu'est-ce qui te prend, rouge? Lui demande le noir qui soudain voit rouge. C'est parce que je suis noir? Non, répond la fille rouge, c'est parce que t'es noir.
Donc un texte, voilà. Un texte de Nougaro,
oui.
C'est ça,
voilà.
Qui était une chanson.
Oui, c'est une chanson, oui. Le rouge et noir. Oui.
Ah, autant pour moi que je ne connais pas, qu'on pourra redécouvrir dans la programmation future de Radio Univers. Je vous en prie, Michel Jaya, vous aviez un autre texte aussi à nous lire et à nous proposer. Alors là, c'est moins un texte de poésie, me semble-t-il, que un texte sur le jazz. C'est bien ça?
Voilà. Donc, c'est un petit texte qui parle du jazz et j'aime bien parce que bon, il dit pas mal ce qu'est l'univers du jazz. Définir le jazz, c'est comme tenter de faire une statue qui représente le feu. La matière est instable, indomptable, insaisissable. Elle ne se laisse pas réduire à une forme. L'air, le temps, et l'air du temps la nourrissent et la redessinent sans cesse. Avez-vous déjà vu de près le flambeau de la statue de la Liberté? La belle flamme, tristement pétrifiée, ressemble à une crème glacée. De même le jazz, désespoir des entomologistes. Voilà une espèce musclée, nerveuse, vivante, qu'il n'est pas possible d'épingler ni de classer. Comment mettre une étiquette sur un tiroir ouvert à tous les vents? Alors, il reste la ressource de la définition en creux. Le jazz n'est pas ce bombardement acharné qu'on vous assène dans les stades pour vous empêcher de goûter ce qu'il y a entre les notes, ni une invention poétique précipitée au fond des geôles où prospèrent les slogans. Le jazz n'est ni un style, ni un genre, ni un lieu, ni une époque. Alors, la nostalgie, née d'un manque, d'une dépossession, d'un arrachement, le jazz chante ce qui était perdu. Il ne peut raconter que des choses cachées depuis le début du monde, et il le fait à la manière d'un soupir enflammé par la rage et la joie. Le jazz commencerait-il là où s'arrête la partition ? Et puis, comme il ressemble davantage à un cerf-volant qu'à un monstre d'acier, le jazz s'est envolé, a traversé blindé climat, s'est reconnu dans les arcs-en-ciel. Plus il voyage, plus il cultive son désir d'envol. Le jazz est le seul air impur qui soit respirable.
Le jazz que l'on a pu, que l'on peut entendre et écouter régulièrement à la radio sur les ondes d'univers dans la programmation musicale. Ce texte-là sur le jazz, c'est un texte de qui ?
Alors, c'est un texte d'un auteur qui s'appelle Florian Hérault. Mm-hmm. Voilà, qui est un auteur qui, ce texte-là s'appelle L'éternel enfui. Mm-hmm.
Et vous l'avez choisi spécialement ?
Ben, j'ai choisi spécialement parce que ce qui me plaît, c'est dans le texte, c'est de dire que le jazz, c'est une forme de musique qui est en perpétuel renouveau, quoi. Mm-hmm. C'est pas une forme fixe. Bon, bien sûr, quand on est musicien, ben, on joue des accords, hein. Il y a une trame fixe, mais sur ces accords-là, on peut improviser autant qu'on veut, quoi. Mm-hmm. Il y a une structure, et sur la structure, on improvise. Et à un certain niveau, la poésie, c'est aussi ça. C'est aussi, moi, je travaille beaucoup sur le clown. Dans le clown, il y a ça aussi. Il y a des structures de jeu, et sur les structures, on improvise, quoi. Et ça, bah, c'est vraiment bien, parce que ça laisse toute la créativité possible s'exprimer, quoi. Mm-hmm. Et le jazz, c'est ça. Bon, alors, il parle aussi de la dépossession. Bon, on sait bien aussi d'où vient le jazz, hein, du blues, du negro spirituals, des esclaves dans les plantations de coton. Mmh. Enfin, si on fait l'histoire du jazz, on sait bien que ça vient de tout ça. Mais c'est en perpétuel renouveau, hein, puisque l'extrême étant le free jazz. Hein. Mmh. Free jazz, mmh. Contrairement à ce qu'on croit, souvent le free jazz, c'est quand même très structuré aussi, hein. Mais il y a une possibilité d'improvisation qui est infinie, quoi. Voilà, je trouve que pour moi, le jazz, c'est ça. C'est un peu la musique classique du XXe siècle, mais avec ce qui différencie le jazz de la musique classique, c'est qu'il y a la possibilité d'improviser, quoi. Mm-hmm. Ben, j'adore la musique classique, hein. C'est pas l'un contre l'autre, hein, mais je veux dire, le jazz, c'est quelque chose d'autre, quoi, qui est... En plus, très mouvant, très tempétueux. Voilà.
qui fait du rythme aussi, quelque chose d'extrêmement important aussi.
Et puis la sensation du rythme, bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui.
Vous jouez.
Bien sûr, le rythme, et là, c'est proche aussi de la poésie. Donc, il y a tout un courant de la poésie contemporaine qui est très axé sur le rythme, sur la rythmique, hein. Avec, par exemple, des auteurs, par exemple, un auteur qui s'appelle Valère Novarina, qui a beaucoup travaillé sur la rythmique des listings. Par exemple, le listing de toutes les plantes, pas de toutes les plantes, mais d'un certain nombre de plantes qui est déroulé comme ça. Au bout d'un moment, bah, d'écouter les sons, ça crée un rythme, quoi. Mmh. Hein? Donc, c'est aussi une des tendances... de la poésie contemporaine, c'est travailler sur le rythme.
Dans vos lectures musicales avec Laurent Gentil, justement, c'est quelque chose qui, du coup, se fait à deux.
Oui, voilà.
Donc, c'est un musicien de jazz.
Oui.
Est-ce que vous pourriez, justement, comment vous jouez à deux
Alors, comment on joue à deux? D'abord, y a une complicité, puisqu'on se connaît depuis quand même pas mal de temps. La première fois qu'on a joué ensemble, c'était au tombé de la nuit à Rennes en 1980, donc ça fait quand même un petit moment. Et Laurent Gentil, c'est un très bon pianiste, parce que vous lui demandez un truc et immédiatement il le fait, quoi. Donc, cherche pas pendant une heure. Il est très fort pour ça. Et puis, on cherche, comme vous dites, quoi. C'est-à-dire que on cherche une complémentarité entre les mots, les notes. Les mots, les notes sont pas forcément des illustrations des mots, mais les notes sont des provocations aux mots et vice versa. C'est-à-dire qu'on essaye, dans la relation entre les mots et les notes, de créer un sens nouveau, quoi, de créer des surprises, des chocs, des ruptures, des nouveautés, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et voilà, c'est un travail en permanence d'écoute et puis de recherche justement de l'imprévu, du momentané, de ce qui arrive dans l'instant comme ça, et qu'on essaye nous-mêmes de se laisser surprendre par ce qu'on fait, quoi. Alors bien sûr, des fois, bon, par exemple, on a un morceau où là on le fait très genre jazzy, cool, quoi, c'est-à-dire très genre boîte de nuit un peu. Bon, alors ça, c'est très codifié, alors on rentre là-dedans, mais très vite on dépasse ça pour aller ailleurs, quoi. Voilà.
Donc c'est vraiment l'esprit du jazz qui anime,
voilà, c'est ça,
ce duo.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Des moments, hein, que l'on pourra retrouver, on espère, après toute cette période très compliquée, et où on pourra tous se retrouver, ouais, aussi à travers des rencontres et des moments. Est-ce que vous auriez tout simplement un dernier texte à nous lire? Je vous prends peut-être un peu au dépourvu, mais allez, si vous avez un dernier texte, et pour marquer le coup du printemps des poètes qu'on n'a pas pu faire en mars et que l'on fait, entre autres, à ce moment-là.
Alors, écoutez, le jazz, le thème du printemps des poètes, c'est le désir. Donc, une des phrases emblématiques, un peu, c'est, si je me souviens bien, c'est une phrase de Georges Bataille qui est un peu en exergue du printemps des poètes, c'est le désir comme un défi au temps qui passe. Je crois que c'est quelque chose, je me rappelle plus exactement de la phrase, mais c'est un petit peu comme ça. Et je crois que le jazz, c'est ça, le jazz, c'est le désir, quoi. C'est dans le jazz, les musiciens de jazz, c'est des musiciens du désir, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une forme figée, c'est une forme en dynamique permanente. Donc là, je tombe sur un autre texte de Claude Nougaro qu'on connaît aussi, qui s'appelle Sa Majesté le Jazz. Donc je peux le dire si vous voulez. Voilà. Avec un J de joie dans un D de détresse, un A comme Amérique et l'Afrique au milieu, et deux Z pour que les cuivres glissent mieux, ouvrez les glaces, voici l'Altesse, laissez passer Sa Majesté le Jazz. Avec un sax ténor qui sort de son étui comme une pipe d'or à fumer de la nuit, un Titanic qui joue de la corne de brume, la trompette de Miles, épine de la lune, la nostalgie mélangée d'extase, laissez passer Sa Majesté le Jazz. Avec sa voix blessée sous le satin de sa blouse, avec ses veines bleues tatouées de picouses, ses yeux de goutte d'eau à déborder les vases, son dernier chant d'amour pour faire table rase, Lady the Blues est aussi son blaze, laissez passer Sa Majesté le Jazz. Avec un écolier de craie, de croûte et d'encre, devant une TSF de 1940, qui balance une musique venue du fond des tripes, du fond de l'âme, du fond de la caisse, du fond du slip, toute la vie dans une phrase, laissez passer Sa Majesté le Jazz.
Voilà un texte de Nougaro. Oui. Rappelez-nous le titre, Sa Majesté.
Sa Majesté le Jazz.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Michel Jaya, pour ces textes que vous avez pu nous lire, des textes que l'on peut retrouver donc à travers vos lectures musicales avec Laurent Gentil. Et par ailleurs, on pourra retrouver aussi des textes que vous pourrez lire à Bazouges-la-Pérouse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce moment, cet instant ?
Donc cet instant-là, donc ça sera donc le 26 juin. Alors moi personnellement, je dirais des textes sur le désir qui ont été choisis par Pascal Boulanger. Et donc la pianiste, c'est Annabelle, je crois qu'elle est assez connue quand même, Bazouge-Lapérouse. Et tous les deux, on va essayer de faire en alternance comme ça, dans un jeu de complémentarité, de provocation, je ne sais pas encore, il faut qu'on répète un peu d'abord. Et donc on va essayer d'animer une soirée sur le thème du désir, en sachant donc que ça fait partie de tout un ensemble décidé par la municipalité et mis en place par la compagnie des Trois Valoches et la compagnie des Échappés du Bal.
On en reparlera sur les ondes, on annoncera sur les ondes d'univers donc ce moment qui aura lieu fin juin. Merci beaucoup Michel Jaya d'être venu dans les studios pour cette émission. Voilà, consacré à la poésie et à la musique. Merci beaucoup pour tous ces textes.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci.